Je suis en compagnie de Marielle Massé. Merci beaucoup de me recevoir chez vous. Nous parlons de style, critique de nos formes de vie, qui était paru dans la collection NRFSC chez Gallimard en 2016. Puis nous parlerons de ces deux petits textes parus aux éditions Verdier, Nos cabanes, et puis Sidéré, considéré migrant en France en 2017. Et nous terminerons par le numéro de la revue critique que vous avez dirigé, Marielle Massé, et qui a pour titre Vivre dans un monde abîmé. Nous commençons donc par style, critique de nos formes de vie, et je vous cite pour introduire l'ouvrage. Je crois qu'une vie est en effet inséparable de ses formes, de ses modalités, de ses régimes, de ses gestes, de ses façons, de ses allures, qui sont déjà des idées.
Oui, en fait, j'ai fait ce travail qui est un énorme travail de lecture et de tentative de clarification d'une idée qui circule avec beaucoup d'intensité aujourd'hui dans toutes sortes de domaines, à la fois du savoir et des pratiques et des façons de prendre position dans la vie. Parce qu'il m'est apparu que la question des formes de vie, c'était une sorte de champ de bataille, le champ de bataille, autour duquel on s'affronte, à l'intérieur duquel on s'engage, et que les formes que l'on parvient à donner à nos vies, les formes qui sont données à nos vies, les conditions qui sont faites à nos existences, définissent en fait le domaine de la valeur, la vie qui vaut la peine, la vie qu'on souhaite, la vie dont on veut ou celle au contraire dont on ne veut pas du tout. Et il m'est apparu en fait que cette question, c'était presque un synonyme du problème même de la vie dans toute la période moderne, que c'était devenu en fait le vocabulaire même de la façon dont on pense et dont on engage son existence. Et quand je dis la période moderne, c'est tout discours ou toute discipline confondue, que ce soit effectivement dans la littérature, parce que c'est un lexique que j'ai vu apparaître chez Balzac, mais pas seulement dans la littérature, dans la philosophie, dans les pensées du vivant, dans la sociologie, dans l'anthropologie. C'est le vocabulaire avec lequel on qualifie l'existence. Et il m'a semblé que ça pouvait être, la mission ou le travail d'une littéraire, c'est-à-dire de quelqu'un qui est appliqué depuis toujours à parler de ces questions de forme et de ce qui se joue dans les formes, ça pouvait être le travail ou la mission d'une littéraire d'essayer de comprendre ce qui se débat à l'intérieur de cette vaste question des formes de la vie.
Vous expliquez bien, Marielle Massé, que vous partez, vous, du champ disciplinaire de la littérature. Vous avez évoqué cette expression, le vocabulaire même. Et c'est peut-être le propre de la littérature d'utiliser le vocabulaire le plus précis et d'y être très très attentif. Vous effectuez alors, avec style critique de nos formes de vie, une construction critique d'une véritable stylistique, c'est ça, de l'existence. Qu'est-ce que ça pourrait être, cette stylistique de l'existence ?
Alors c'est une formule qui intervient, mais de façon assez discrète et rare, dans les derniers textes de Foucault, de Michel Foucault, qui lui préfère une autre formule, celle d'esthétique de l'existence. Une stylistique de l'existence, en fait, c'est un type de regard qu'on porte sur la vie quand on essaye d'en saisir les formes, donc cette liste de substantifs là que vous avez rappelé tout à l'heure, les gestes, les rythmes, les allures, les régimes de la vie, les modes relationnels, etc. Une stylistique de l'existence, ça serait un type de savoir, un type d'attention qui chercherait à saisir dans toute vie ces formes et à les interpréter et à les soutenir ou au contraire à les critiquer. Prendre une vie par la question de la forme, des manières, du style, ça m'a paru intéressant en particulier parce que, disons, c'est pas la même chose de s'intéresser à quelqu'un comme au sujet d'une histoire, d'une biographie, d'un récit de vie, et de s'intéresser à quelqu'un comme au sujet de gestes, de manières, comme au sujet d'un style. C'est pas la même façon de se relier aux autres, c'est pas la même manière de se rappeler quelqu'un, par exemple, quand il est mort, que de s'en souvenir comme de celui qui fut le sujet d'une histoire qui a eu lieu et qui est close, ou de celui qui fut le sujet d'un ensemble de manières de s'y prendre avec la vie. Ça le fait circuler autrement dans notre mémoire, ça nous accroche et ça nous décroche autrement les uns des autres, de se penser comme des sujets de récit ou de se penser comme des sujets de manière ou de style. Et il m'a semblé que ça consonnait beaucoup avec, disons, la façon dont on débat, encore une fois, dans l'arène politique la plus contemporaine, de la vie qu'on souhaite. Hein, aujourd'hui, c'est très évident, on descend dans la rue, on occupe des places, on habite des territoires que l'on cherche à défendre, parce qu'on réclame d'autres manières de vivre, d'autres manières de vivre. Et donc, moi, j'ai voulu éclairer cette affaire-là. Qu'est-ce que ça signifie de penser la vie en termes de forme? Eh bien, c'est à ça qu'une attention stylistique essaye d'être vigilante.
Et alors, dans votre essai, Marielle Massé, bien entendu, le problème peut-être principal, c'était celui de la définition du style, du problème de son mode d'apparition. Vous écrivez, le style ne repose pas seulement sur une somme de traits, mais sur la façon dont une forme s'avance dans le sensible, existant dans et par les transformations. Vous introduisez déjà la possibilité d'être attentif à également ces transformations, et non pas à quelque chose qui serait uniquement fixe.
Oui, alors peut-être qu'on peut, disons, calmer l'inquiétude de la définition. Moi, j'ai pas eu une démarche très définitionnelle, c'est-à-dire que j'ai pas cherché à dire voilà ce qu'est le style, voilà au contraire des définitions fautives ou malvenues, etc. J'ai essayé de rendre visible un champ notionnel, comme un champ de bataille, vraiment, j'y insiste, parce que ce qui m'a intéressé, c'était surtout de voir à quel point ce terme-là est apparu comme le mot-clé et même le mot conclusif dans toutes sortes de démarches qui pourtant ne soutiennent pas du tout la même idée de la vie. C'est-à-dire toutes sortes de démarches de Nietzsche à Bourdieu, en passant par Canguilhem ou Merleau-Ponty, et chez des poètes comme Ponge ou comme Michaud. C'est ce qu'on peut appeler le vocabulaire final, c'est-à-dire celui qui surgit quand on veut dire vraiment ce qui importe et de quoi il est question. Et donc, plutôt que de fournir une définition, stricte et figée, j'ai cherché à faire apparaître des objets de dispute. De quoi un tel veut parler quand il nous donne le sentiment que le fin mot de la façon dont il veut définir la vie qui compte pour lui sera celui d'allure ou de manière ou de régime ou de mode, etc. Donc effectivement, il y a une définition opératoire que je donne. Hein, le style, c'est un champ de phénomène et c'est une singularité en voie de généralisation, comme l'a dit Laurent Génie, c'est-à-dire c'est une singularité formelle, un comme si et pas comme ça, qui soutient une idée générale d'une certaine façon de se tenir dans l'existence, en fait. Mais voilà, c'est une définition très accueillante et qui est surtout faite pour moi pour ensuite identifier des lieux de débat, des lieux de dispute où chacun prend son parti sur la vie. Donc, par exemple, quelle différence fondamentale entre la manière dont Bourdieu ou dont Michel de Certeau vont définir ce que c'est qu'un geste, hein, quelque chose comme le style du corps, le type de valeur sociale qu'ils y investissent et qu'ils y défendent, c'est surtout ça qui m'a importé. Et donc c'est pour ça que le mot style, j'essaye de ne pas le faire fonctionner à l'exception de tous les autres, c'est plutôt un champ de mots que j'essaye de prendre d'une façon qui serait assez souple, en ne jouant pas le style contre la manière, le rythme contre la métrique, enfin des choses de cet ordre-là. En fait, il s'agit de rendre compte de tout ce qu'on pourrait appeler le comment de l'existence. Comment est la vie? Comment tu vis? Et comment on vit ailleurs? Et comment tu voudrais vivre? Il s'agissait pour moi de, voilà, de faire surgir cet espace unifié et qui m'apparaît être vraiment celui de nos engagements, de notre désir de bonheur même, qu'est l'espace du commun. Je dis de notre désir de bonheur en pensant à un film important et célèbre qui a lancé toute l'histoire du cinéma vérité. Ce sont les Chroniques d'un été de Jean Rouch et Edgar Morin, qui justement s'était donné comme premier sujet d'enquête, puisqu'il s'agissait d'un film construit dans le recueil de la parole de toute une génération, celle qui a survécu à la guerre, à la Seconde Guerre mondiale en gros, donc d'une autre jeunesse. Il s'agissait de les interroger pour comprendre quelle était leur pratique de l'existence quotidienne et quelles pouvaient être leurs aspirations. Et la première question qui leur était venue à l'esprit, c'était « Comment vis-tu ?» Ça devait être le premier titre du film, en fait. Ça devait s'appeler « Comment vis-tu ?» Et ça s'est finalement appelé « Chronique d'un été ». Mais ils ont aussi remplacé cette question « Comment vis-tu ?» par une autre question qui était « Madame, monsieur, êtes-vous heureux ?» Et moi, ça résume mon propos, en fait. C'est-à-dire que cette recherche d'une vie qui importe, d'une vie qui vaut la peine qu'on s'y engage, eh bien, elle coïncide entièrement avec le plan du comment. Comment on vit, comment on voudrait vivre.
Si bien qu'avec cette souplesse conceptuelle, vous avez utilisé la belle expression de calmer l'inquiétude de la définition. C'est-à-dire que on est dans un concept essentiellement ouvert, souple, le contraire du fermé, et déjà dans la manière dont vous allez utiliser ce concept, dont vous allez le concevoir et donc le définir avec l'ouverture maximale, c'est déjà une proposition d'ouverture à l'autre et au maximum de l'autre dans sa plus grande diversité. Donc on pourrait peut-être parler d'un concept généreux à la différence d'un concept fermé, d'un concept strict qui ne prendrait pas en charge la différence la plus complète et la plus extraordinaire des entités vivantes et notamment des êtres humains. J'aimerais qu'on continue encore un peu sur la théorie avant de peut-être prendre des exemples pour cette oui.
Oui, je voudrais dire un concept généreux, ça me plaît beaucoup comme idée, un concept généreux mais batailleur. C'est-à-dire que, à la mesure même où s'ouvre ce domaine d'une attention formelle à la vie, doit aussi s'imposer le désir de penser des différences, des divergences. Et c'est très important pour moi hein, que la générosité du concept ne fasse pas oublier qu'il s'agit d'une arène de dispute et que c'est toujours ça prend toujours place dans une démarche de critique ou de désir ou d'engagement.
C'est-à-dire qu'effectivement, c'est l'ensuite du concept. Hein. Une fois forgé, une fois théorisé par votre livre style, Marielle Massé, on va en arriver à ces deux textes qui, eux, sont d'engagement politique. Les deux textes chez Verdier, Nos cabanes, et puis Sidéré, considéré, migrant en France 2017, qui pourrait être effectivement la suite logique. Parce que vous avez bien raison, là, d'intervenir. C'est que forgeant un concept généreux, forgeant un concept qui pourrait être directement utilisable par tout le monde, pour s'intéresser, je vais reprendre votre titre, Sidéré, considéré, pour considérer les autres, et considérer les autres, ça veut dire tous les autres, toutes les autres entités à existence, enfin, qui ont existence, mais même également tous les autres dont on ne perçoit pas encore l'existence. Et ça, c'est la générosité la plus grande de votre concept, parce que justement, il y a une souplesse conceptuelle, et parce que vous avez cette expression de calmer l'inquiétude de la définition. Et donc ça, c'est ça rend les choses possibles et bien entendu ça entraîne une réflexion et aussi une action politique. Ça, c'est ce que vous expliquez dans les livres chez Verdier. Mais j'aimerais qu'on revienne encore sur des considérations théoriques. Vous écrivez style et ses enfin vous écrivez que ce livre aussi une bataille des valeurs avec style que c'est demander à des disciplines, la sociologie, l'ethnologie, de pluraliser radicalement leur axiologie. Car ces disciplines n'ouvrent pas suffisamment le compas de l'attention aux formes et à la dispersion des sens parce que la valeur demeure en eux trop univoque. Ça, je vous cite. La valeur demeure en eux trop univoque. Et donc, vous demandez à ces disciplines d'ouvrir le compas de l'attention au maximum.
Oui, ce qu'il faudrait dire, c'est qu'il y a des façons de décrire ce que Michel de Certeau appelait les formalités du quotidien, c'est-à-dire les manières de faire, manières de parler, manières de marcher, manières de manger, manières de se relier aux autres, manières d'apprendre, manières de travailler, manières de consommer. Il y a des façons de décrire ces formalités du quotidien qui semblent avoir déjà décider du genre de sens que ces formes pouvaient avoir, qui semble avoir déjà décidé s'il s'agissait d'espace d'émancipation ou au contraire d'espace d'assujettissement à des positions sociales. Donc c'est par rapport à à ce sens unique que je vois souvent dans les démarches de la sociologie ou de l'anthropologie, qu'en effet, j'ai envie de soutenir l'idée d'une pluralisation des sens, qu'on accepte d'être surpris par le sens des pratiques. Parce qu'elles sont très très précieuses, hein, toutes ces démarches, et elles en disent, elles disent parfois l'essentiel de ce qui a lieu dans le jeu social. Mais il m'est apparu que souvent, elles bondissaient rapidement aux conclusions sur le sens que peut avoir un geste, le sens que peut avoir un rythme de vie individuel ou collectif. Donc ce qu'il fallait tenter de faire, c'était de passer en deçà de en deçà de de ce moment descriptif pour être prêt à être vraiment surpris par des formes de vie. Et à ne pas savoir si on va y chercher les marques d'une position sociale ou au contraire les refuges d'une possibilité d'émancipation, à pas l'avoir déjà décidé, qu'on allait considérer les façons de s'habiller, par exemple, comme des signaux d'une appartenance ou d'un désir d'appartenance, ou qu'on n'allait pas nécessairement considérer les manières d'habiter comme des poches de liberté, mais qu'on allait justement se demander de quel espace de sens, de quelle dispute entre des possibilités très différentes de faire sens avec sa vie, est-ce que c'est le nom ou le site, hein? Là, les noms qui sont sous-jacents aux phrases que je viens de prononcer, c'est par exemple celui de Bourdieu, ou par exemple celui de Rancière, ou par exemple celui de Certeau. Parce que bon, moi, j'ai une admiration sans borne pour Bourdieu, hein. Je pense qu'il est. Il est impeccable dans son désir d'être celui qui va toujours nommer le site de la domination, les formes de la domination, de l'auto-assujettissement à des places sociales. Mais, par exemple, dans des descriptions qui sont inspirées de son travail, on a l'impression qu'on est déjà décidé à considérer que toute forme, toute gestualité, toute manière ne pourra être qu'un espace de signalisation de cette affaire-là, de cette affaire des positions sociales. Et donc voilà, il s'agit d'ouvrir un peu toute porte battante, cet espace-là, et d'être prêt à être surpris, à considérer que justement la vie des autres, elle est jamais aussi prévisible, peut-être qu'on ne le pense. Et que la vie des pauvres n'est jamais si pauvre qu'on le croit. Bourdieu était le premier à le savoir. Hein. Et voilà, qu'on soit prêt à être surpris.
Alors, dans votre corpus, Marielle Massé, il y a non, bien entendu Bourdieu, mais il y a également la littérature. Vous apportez la littérature avec vous dans ce livre-là. Je vous cite. « La littérature est, au regard des sciences humaines et de la philosophie, plus et mieux qu'une réserve d'exemples. C'est une entrée en lutte contre toutes les façons, y compris savantes, d'être inattentif au comment. » Et vous poursuiviez plus loin. « La littérature comme discours infini du comment. » Et là, effectivement, vous avez bien montré à quel point c'était la bonne question, cette question du comment, que le sens se joue dans ce comment. Donc, la littérature comme discours infini du comment, c'est-à-dire lieu d'exploration du fait qu'aucune vie n'est séparable de ses formes, que toute vie se débat dans ses formes.
Oui, parce qu'en effet, la littérature, qui est un discours inconclusif, accueillant aux contradictions, m'apparaît comme un espace où se réfléchit cette question des formes de la vie, sans qu'un parti y soit pris rapidement. Par exemple, dans certains textes sur la blessure ou sur la chute, le corps apparaît sous toutes sortes de modalités qui en font aussi bien le site d'une puissance que celui d'une vulnérabilité. Et j'ai l'impression que l'effort de beaucoup d'écrivains, enfin en tout cas de ceux qui m'importent, c'est de regarder ça d'une vie. Et moi, la littérature qui m'est précieuse, souvent c'est une littérature d'essais ou de poèmes ou de récits, une littérature d'élucidation, une littérature de qualification, plus rarement une littérature romanesque. Parce que j'aime voir des écrivains attelés justement à cette tâche de la description de ce qu'il peut y avoir d'impersonnel dans une vie. Donc attachés non pas à faire le récit d'une vie unique et irremplaçable, mais plutôt à faire la description de ces modalités qu'on a en partage, qui sont un peu l'impersonnel à l'intérieur de nous, nos gestes, nos façons d'habiter, nos façons de travailler, nos façons d'aimer. Et je trouve souvent, chez des poètes en particulier, Pasolini, Baudelaire, Ponge, Michaud, des alliés dans ce désir d'écrire un espace de forme sans avoir déjà décidé du sens qu'il allait prendre et en étant prêt à y découvrir toutes sortes de valeurs. En étant prêt, par exemple, c'est très singulier chez Michaud, à découvrir à l'intérieur de l'expérience de la blessure ou de l'affaiblissement d'autres manières de se servir de son corps. Alors le caractère social des manières de se servir de son corps, il avait été très très magnifiquement décrit par Marcel Mauss, qui avait en quelque sorte découvert, si on peut dire, la socialité des usages du corps, hein, des techniques du corps. C'est un grand article du début des années 30. Mais j'ai aimé voir chez Michaud décrire une longue aventure à l'intérieur des puissances et des impuissances du corps qui nous donne une idée très forte et très appropriable, disons, de notre propre rapport à nos capacités et à nos incapacités. Et voilà, la littérature, pour moi, elle est précieuse dans son effort de qualification. Parce que le cœur de l'effort, c'est celui de déposer dans des phrases et dans un effort de justesse la description de quelque chose comme la capacité humaine, sous toutes ses formes, dans tous ses états.
Et donc aller jusqu'à changer de regard, changer de perception et être attentif au maximum à tout ce qui se passe, à tout ce qui se produit autour de nous, à toutes les entités, et d'abord aux autres humains. Parlons déjà de ces entités, les entités humaines, nous autres. Et c'est le cas dans ce livre paru en 2017 chez Verdier, « Sidéré, considéré, migrant en France ». Dans quelles circonstances l'avez-vous écrit, Marielle Massé, ce texte? Un texte court, un texte d'intervention?
Alors en fait, c'était la question de ce qu'on appelle la crise des migrants et qui est plutôt une crise de l'accueil. Enfin, tout le monde s'accorde à le dire aujourd'hui. J'y avais déjà un petit peu touché à la fin de Style parce que j'en avais fait le point, disons le point d'aboutissement du livre en essayant de dire bon bah, de quoi on peut parler justement si on s'engage dans un regard de cet ordre, de quoi on peut parler, de quoi il faudrait parler singulièrement aujourd'hui. Et il m'est apparu que l'espace dans lequel il s'agissait de se lancer à son tour, hein, en n'étant pas simplement celle qui allait expliciter les démarches d'un tel ou d'un tel à l'intérieur de cette question des formes de vie, mais celle qui allait tenter d'entrer dans l'arène à son tour pour entrer dans un travail de description et de qualification d'une réalité sociale, il m'est apparu que la chose qui s'imposait comme une espèce d'appel au travail au travail intellectuel le plus urgent, c'était cette question migrante. Et je pense que c'est ce dont il faut parler et ce dont peut-être on ne parle jamais bien, on ne peut jamais bien parler, on peut jamais, on ne doit jamais aboutir à une place confortable dans le discours. On ne doit jamais penser qu'on en parle bien. Et c'est un peu ça que je dis dans ce livre, qu'on est pris dans un battement entre plusieurs attitudes perceptuelles, morales, humaines, possibles à l'égard de tous ceux qui nous arrivent là, tous ceux qui aussi fabriquent avec nous la réalité de nos villes contemporaines. On est pris entre la sidération, le fait d'être saisi par des vies apparemment tout autres, qui, notamment à travers le discours médiatique, nous apparaissent comme des vies auxquelles rien ne nous attache, et des vies spectrales qui traversent la ville comme ça, et qui sont souvent d'ailleurs présentées comme des demi-vies, hein. Des parenthèses à l'égard de ce que ce serait qu'une existence commune. Or, tous ces gens qui migrent longuement, mais dont c'est pas, disons, c'est pas une nature humaine singulière d'être migrant. C'est une situation sociale et politique qui vous est faite dans des moments de vulnérabilité accrue, dans des espaces de violence accrue. Eh bien, bah voilà, ce sont des vies. Ce ne sont pas des demi-vies, ce sont des vies. Et donc, on a à les recevoir, à se rapporter à elles avec cette conviction-là. Et c'est ce que j'ai essayé de décrire dans le passage d'une attitude morale, la sidération, à une autre attitude morale qui serait la considération, c'est-à-dire le fait de déployer autrement son attention. Ne pas avoir l'impression de deux humanités dressées l'une contre l'autre, nous et eux, mais bah, d'un autre monde qui est en train de se bâtir et qui nécessite qu'on soit autrement présent aux luttes et aux crises du présent et qu'on soit dans une toute autre disposition à considérer la vie des autres.
Parce qu'il y a des enjeux, et vous venez vraiment de, très bien d'en parler, Marielle Massé, il y a des enjeux de vocabulaire. Ce passage, ça pourrait être un simple jeu de mots, sidérer, considérer. Le jeu de mots est magnifique, mais il signifie. Il est d'autant plus magnifique qu'il signifie beaucoup. Vous parlez de cette sidération, et effectivement, il y a la sidération de rencontrer des migrants, c'est-à-dire d'avoir affaire aussi avec leur déplacement, avec les dernières années de leur vie qu'ils ont vécues avant d'arriver ici et après leur mode de vie en France. Ça, c'est la sidération. C'est la sidération qu'on reçoit. Et vous expliquez très bien avec ce changement de vocabulaire, à partir du moment où on parle de considérer, là, on prend en charge. On prend en charge autre chose, c'est-à-dire on prend en charge avec d'autres manière de procéder, c'est-à-dire avec d'autres concepts également. Et considérer pourrait être un concept à lui tout seul, c'est-à-dire je considère, c'est-à-dire je ne suis plus sidéré, je fais l'effort de ne plus être sidéré et de prendre en charge et de prendre en compte. C'est pour ça que ce court texte est pour moi vraiment une continuation par l'exemple de style critique, de nos modes, de nos formes de vie. Et alors, il y a un passage dedans qui m'a particulièrement frappé, j'imagine que vous aussi, lorsque vous l'écrivez, c'est cette utilisation du mot « considérant » dans un arrêté municipal. Il y a un arrêté municipal d'expulsion d'un camp, et l'arrêté municipal qui ordonne cette destruction, il y a 70 occurrences du mot « considérant ». Je vous cite, considérant les risques sanitaires, considérant l'indignité des conditions de vie, considérant l'illégalité, considérant ce qui est toujours présenté comme une situation de péril imminent et d'inhumanité où la démolition peut se présenter comme un sauvetage, considérant même, et etc., etc. J'imagine quand vous avez lu cet arrêté municipal à quel point vous étiez peut-être là à nouveau sidéré, non pas par le migrant, mais par l'arrêté municipal qui utilise là ce terme considérant.
Oui, c'est un terme du vocabulaire juridique, du vocabulaire de l'administration, considéré. Et moi, c'est sous cette forme-là, disons, que la réflexion m'est venue. C'est en travaillant, en échangeant avec un groupe de militants, architectes, urbanistes, intellectuels, citoyens, qui s'appelle le PERU, le Pôle d'exploration des ressources urbaines, qui intervient dans les marges de la ville, mais des marges, comme je le dis au début du livre, il y en a en plein centre, mais qui intervient auprès des populations reléguées, migrants, mais aussi Roms et sans-abri, et qui intervient en essayant de soutenir les vies qui se tiennent et qui se maintiennent dans des espaces pourtant entièrement précarisés et qui sont généralement l'objet d'une grande démarche de destruction de la part des pouvoirs publics. Et le Pérou choisit d'accompagner, au contraire, ceux qui vivent là dans leur effort de construction, de reconstruction de vie quotidienne, non pas pour pérenniser des bidonvilles, mais pour simplement prendre acte du fait que là, il y a des vies et là, il y a des lieux de vie. Et que plus on équipera, plus on respectera les gestes et les tentatives de ceux qui y vivent, plus vite peut-être on leur permettra de les quitter. Et donc au lieu de répondre à des situations de précarité par la destruction, on y répond par le soin, l'attention et la considération. Et le Pérou, surtout en la personne de Sébastien Thierry, avait publié un ouvrage et un film sous ce titre, considérant, qui parlait de cet épisode de la destruction d'un bidonville ou d'un dit bidonville sur la commune de Ris-Orangis de Rome, qui effectivement avait été détruit à la suite et grâce à la publication de cet arrêté que je cite là et qui effectivement est scandé par un nombre immense d'occurrences de ce mot considérant, considéré, et qui semble nous dire avec fracas, enfin c'est comme si c'était une blessure de la langue ou une maltraitance de la langue, qui semble nous dire que justement là, on n'a pas considéré les états de réalité et les gens. Considérer, ça veut dire regarder attentivement, ça veut dire aussi prendre soin, prendre acte de quelque chose, partir de cette chose qui existe, et puis rester auprès d'elle, et puis l'honorer, l'augmenter. Et donc c'est à partir de ce compagnonnage avec le travail du Pérou que j'ai eu envie, disons, de participer à ma mesure, pure mesure de phrase en fait, hein. Rien de mieux, rien de plus, mais je voulais participer à ma mesure, à ce type de démarche, et c'est grâce à eux que m'est apparu en fait ce battement entre deux émotions politiques très très différentes. Et dans ce livre, il ne s'agissait pas de remplacer la sidération par la considération, en nous empêchant d'être saisis, d'être émus, d'être médusés par des états de réalité humains, urbains. Mais il s'agissait d'inviter à soulever en soi ce désir d'attention et de considération, ce désir de tourner vers une autre manière de se rapporter aux autres, de ne serait-ce que d'éprouver les points communs entre ces vies tout autres et tout autrement traitées et saccagées que les nôtres, hein, mais d'éprouver des points communs entre ces vies tout autres et les nôtres, de tenir d'évidence les sujets de ces vies comme des sujets héroïques, pleins de rêves, de désirs, et de désirs de se faire une vie, une vraie, et de ne pas être justement ces spectres qui accepteraient d'être dans une situation de demi-existence. Donc il s'agissait par la parole, et effectivement en construisant ce battement entre deux mots, d'essayer de soulever quelque chose.
Et puis au début de l'année 2019, vous avez fait publier « Nos cabanes », également petit texte d'intervention, aux éditions Verdier, et celui-ci est dans une autre occasion particulière. Pouvez-vous également nous en parler de cette occasion de l'écriture de « Nos cabanes » c'était plutôt, là on était sur à Notre-Dame des... voilà, à Notre-Dame-des-Landes pour... j'ai l'impression que c'était à cette occasion-là.
Oui, alors plus que d'une occasion, il faudrait parler d'une situation que tout à coup on a envie d'honorer. Et la situation que j'avais envie d'honorer, c'était celle de ces grands vivants militants qui s'installent sur des territoires fragiles ou fragilisés ou menacés et qui habitent ces territoires pour mieux les protéger et qui, par ce fait même, prouve que d'autres manières de vivre sont possibles, que d'autres manières de travailler sont possibles, que d'autres manières de bâtir sont possibles, que d'autres manières de se relier les uns aux autres sont possibles. Donc en l'occurrence, il s'agissait effectivement de la situation de Notre-Dame-des-Landes, qui me semblait exemplaire en fait du type de questions qu'on a à se poser aujourd'hui, qui me semblait constituer pas du tout une poche excentrique du territoire français, mais un lieu aux avant-postes du genre de monde autour duquel il faudrait réfléchir. Et donc j'avais envie, ouais, par l'écriture, d'honorer cet effort-là, de dire à quel point il nous concerne et il nous enseigne. Et ce livre, il est né à la fois d'une admiration pour ce type de lutte, du désir de les mettre en lien avec tout un ensemble d'efforts des sciences humaines et sociales d'aujourd'hui, et au tout premier chef de l'anthropologie. Beaucoup d'anthropologues pourraient se reconnaître dans le type d'effort qui est conduit là, pour réclamer un autre monde ou pour faire place à un autre monde, à d'autres liens avec le monde et notamment le monde naturel. Et puis aussi je voulais le mettre en résonance avec ce qui m'apparaissait comme la situation sociale peut-être la plus commune aujourd'hui et qui me semble être d'une grande cruauté, qui est la vulnérabilité que crée le fait de se savoir objet de sélection dans tous les domaines de l'existence. Et ça m'apparaissait être la situation qui était faite à la génération qui vient juste après la mienne, à la génération de mes étudiants. Alors encore une fois, une question de forme de vie. Encore une fois, une question où la valeur de la vie qu'on souhaite, elle est mesurée aux formes qui lui sont faites, aux formes contraignantes qui lui sont faites et à celles qu'on voudrait réclamer. Parce que j'ai eu le sentiment que la génération des jeunes gens d'aujourd'hui, elle est confrontée d'entrée de jeu à cette impression qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de place, il n'y aura pas de place. En tout cas, pas de la même façon. Pas de travail, pas de logement, pas de soins. En tout cas, pas de la même façon, pas de retraite, etc. Que depuis le départ, enfin c'est ce qu'ils me disent, depuis le départ, on leur dit que pour eux, il n'y aura pas de place. Et comme on leur dit ça, que pour eux, il n'y aura pas de place, en tout cas pas comme nous, j'ai l'impression qu'ils réclament un monde qui soit pas un monde de place, mais qui soit un monde où se relier autrement à l'espace, où se relier autrement au travail, où se relier autrement entre eux, et qu'il y a là quelque chose, en effet, qui réclame qu'on prête l'oreille, que vraiment on prête l'oreille au désir de vivre autrement.
Qu'on prête l'oreille, qu'on y soit attentif, que l'on considère à nouveau. Je vais vous citer à nouveau Marielle Massé. Faire des cabanes, imaginer des façons de vivre dans un monde abîmé, trouver où atterrir. Ça, c'est bien aussi une question, j'imagine, de vos étudiants. Où atterrir ce grand livre et enfin, grand livre de. J'allais dire le dernier, mais il y en aura d'autres, bien entendu, mais le dernier en date de Bruno Latour. Et vous continuez, pas pour se retirer du monde. Pas pour se faire une petite tanière, mais pour leur faire face autrement à ce monde-ci, à ce présent-là, avec leur saccage, leur rebut, mais aussi leur possibilité d'échapper. Loin du cabanon solitaire de Thoreau, qui élaborait près du lac de Walden une réflexion sur les vertus d'une vie à l'écart. Et vous ajoutez un peu plus loin, faire des cabanes au bord des villes, on pourrait rejoindre presque un camp de migrants, et au cœur des villes également. Vous exposez qu'elles pourraient être éventuellement ce projet de cabane qui n'est pas de se retirer très loin justement de Thoreau, mais plutôt un projet pour vos étudiants, quoi. Comment vous allez faire des cabanes en centre-ville?
Oui, alors dans ce livre, je donne le nom de cabane à quelque chose comme une situation politique contemporaine qui est le fait qu'on. Une cabane, c'est quelque chose qui se fait avec des débris, avec des choses de briques et de brocs. Et une cabane, c'est un espace qui me semble dire à la fois le pire du monde, de ce monde abîmé, et les gestes qui sont opposés à ce pire. Des cabanes, il y en a de toutes sortes, hein. Il y en a effectivement qui sont désirées, qui sont affirmatives, les cabanes de Notre-Dame-des-Landes, celles aussi de nos friches urbaines, là, qui sont des lieux où s'inventent aussi d'autres manières de vivre la ville. Et puis il y en a au contraire qui accusent ce monde saccageur, comme les cabanes des campements, des campements de migrants, les cabanes de tous les relégués. Donc c'est pas une comment dire, c'est pas une figure univoque, la cabane. C'était pour moi à la fois la réalité et l'image où se conjoignent toutes les lignes de vie et les lignes de mort, si on peut dire, de ce monde auquel on a affaire aujourd'hui. Donc elle figure pour moi des sortes d'espaces où l'on brave les conditions de ce monde abîmé, où l'on tente d'installer une vie à l'intérieur d'un monde, le seul auquel on ait affaire, qui est un monde saccagé de toutes sortes de manières, hein, économiques, sociales, politiques, écologiques.
Et puis dans ce court texte, nous faites part de cette injonction de Michel Foucault, qui présente un ensemble de reportages d'idées en 1978 dans le Corriere della Sera. Et il écrit dedans: « Il y a plus d'idées sur la Terre que les intellectuels, souvent, ne l'imaginent. » Et à cette occasion, vous complétez cette citation: « Il y a plus d'idées sur Terre qu'on ne l'imagine, des idées à même la Terre, à même les choses, à même les formes des vivants, des idées de vie à entendre, des pensées et des phrases à mêler enfin au nôtre. » Nous avons jusqu'ici parlé des vivants humains, qu'ils soient migrants, qu'ils soient contestataires à Notre-Dame-des-Landes, mais vous êtes attentif également aux autres formes du vivant, à toutes les formes du vivant, et qui va nous amener au numéro de critique paru au début de l'année 2019. C'est le numéro de janvier-février 2019. Excellente revue que critique et qui s'appelle « Vivre dans un monde abîmé ». Et donc, c'était sous votre direction. Et par « Vivre dans un monde abîmé », on comprend que dans votre corpus, vous ne venez pas toute seule. On a bien compris dans ce style que vous veniez, bien entendu, avec, par exemple, Bourdieu, que vous venez également là avec Foucault, mais ce sont des morts. Vous venez aussi avec des vivants. Vous venez avec Frédéric Aïtouati, vous venez avec Emmanuel Ecoccia, vous venez avec Thierry Hoquet, vous venez avec Sophie Houdard, vous venez aussi avec Pierre-Henri Castel. C'est-à-dire qu'il y a des contemporains, des penseurs actuels avec qui vous venez, et tous ensemble, vous êtes attentifs, pas seulement à la question humaine, mais à la question de l'ensemble du vivant qui est là, l'ensemble de ce qui nous entoure et de ce qui nous accompagne dans nos vies et également dans nos formes de vie.
Oui, j'entendais Émilie H. l'autre jour dire « on est tous en train d'écrire le même livre ». On est tous en train d'écrire le même livre et ça me paraît très juste. Et disons, tous les noms que vous citez là, c'est vrai que je les ai rassemblés avec quelqu'un d'autre aussi qui s'appelle Romain Noël dans ce sommaire de critique. Mais ils sont tous cités comme les alliés, même dans les petits livres, même dans les deux petits livres de Verdier. Alors, vivant ou mort, je dirais que c'est peut-être pas là une distinction forte à faire, hein, parce que quand on est un lecteur, a fortiori quand on est quelqu'un qui s'inscrit dans une démarche littéraire, on trouve des alliés dans tous les temps, possiblement, où on essaye de les faire vivre comme tels. Et le contemporain n'est pas forcément défini par le fait qu'on soit là tous en même temps sur le même sol. Donc c'est peut-être pas ça la chose à mettre en avant. Ce qu'il faut mettre en avant, c'est que toutes sortes d'efforts là, intellectuels, artistiques aussi, convergent en effet vers le désir de répondre à une même question qui est celle des formes de vie qu'on va réussir à installer dans un monde qui nous apparaît très emmêlé, très embrouillé, construit, comme je le disais tout à l'heure, du pire et de tous les gestes qui lui sont opposés. Donc on est tous pris dans le même effort. Et c'est ce qui fait qu'on peut composer des livres à plusieurs, en fait. On est pris dans le même effort. Nos démarches sont différentes. Elles viennent de la sociologie, de la philosophie, de la littérature. Mais elles sont prises dans un même effort. Et je crois que cette conscience, elle est très très forte aujourd'hui, de tous écrire le même livre ou d'exagérer à plusieurs pour tenter des réponses à une question qui peut-être n'en a aucune. Sinon celle auquel on s'essaie, justement.
Pour conclure, Marielle Massé, je vais lire la fin de votre article dans la revue critique qui s'appelle « Comment les oiseaux se sont tus ». Vous terminez votre texte ainsi. « Je suis en vérité stupéfaite par le peu d'attention que les pensées contemporaines accordent à la poésie, lorsque pourtant elles se posent des questions de langue, d'écoute et de traduction, se demandant comment entendre les bêtes, les arbres, les fleuves, quel langage leur reconnaître, quelles pensées leur concéder, mieux, leur constater, de quelle âme les honorer. C'est en poème que s'énoncera le chant de ce parlement élargi que notre époque réclame, un parlement élargi aux vivants de toutes sortes et aux non-vivants et à des êtres qu'on ne sait pas encore nommer. »
Oui, moi j'ai l'impression que c'est juste ça, peut-être la singularité de ce que je tente à l'intérieur de cet espace où on est tous embarqués dans un même effort, peut-être pas en lui donnant le même sens ou la même valeur, mais en tout cas en habitant le même sol et en le sentant bouger très très fort sous nos pieds. J'ai l'impression que la singularité de ma démarche, c'est d'essayer de mobiliser la poésie. Alors la poésie, ça veut dire l'attention à la poésie qui existe, mais aussi l'espérance d'en produire un peu, enfin à ma manière, le désir de mobiliser la poésie dans cette, enfin, ce que j'appelle une anthropologie élargie, élargie à d'autres types de vivants, et qui est le mouvement le plus vigoureux aujourd'hui, sans doute, des sciences humaines, de se penser au-delà de l'humain. Hein. Même la sociologie se pense aussi au-delà de l'humain. L'attention aux bêtes, l'attention aux plantes, l'attention au sol, l'attention au climat, etc. Ça fait partie de cet effort pour essayer de prendre acte des transformations les plus considérables du monde dans lequel on est. Et je suis frappée, en effet, de voir sous la plume de tellement d'anthropologues ou de philosophes le désir d'écouter mieux les choses de la nature. Je suis frappée par la dissonance qu'il y a entre ce désir d'écouter mieux et quelque chose comme une surdité à l'espace culturel où cet effort pour mieux écouter ce travail et qui est le poème. Il y a quelque chose d'une folie ordinaire du poème, enfin j'essaie de le dire comme ça. La folie ordinaire du poème, c'est de se donner toutes sortes d'interlocuteurs, même chez ceux dont on dit qu'ils ne disposent d'aucune voix ou d'aucun langage ou d'aucune parole. Il y a une audace des poètes à écouter les choses muettes, et il y a un scrupule de beaucoup de poètes à ne pas chercher à les faire parler, à pas faire semblant, effectivement, qu'on ait des conversations avec eux, mais à essayer de pousser le plus loin possible la tentative pour construire des scènes de parole où on se sache emmêlé en effet aux choses de la nature, où on ne les ventriloque pas et pourtant où on essaye de faire exister leur voix, leur présence, leur pensée. Et voilà, moi je me dis, bon, bah si y a qu'une personne qui croit au sérieux de cette folie poétique dans la réflexion écologique actuelle, alors oui, je veux bien être celle-là. Mais je suis pas la seule, évidemment. Il y a nombre de poètes qui sont à peu près convaincus de la même chose, des gens comme Jean-Claude Pinson, comme Stéphane Bouquet, ou comme Valéry Rousseau, ou comme Gérard Allaire. Mais j'ai l'impression qu'il faut dire les choses un peu haut et fort pour que cette vigueur de la parole poétique, elle soit entendue comme autre chose que comme un ornement à l'intérieur des sciences sociales. Parce qu'autant les sciences sociales sont attentives au roman, comme à un espace de cas, un ensemble de cas, hein, dans lequel on pioche des ressources descriptives, une force de détail, etc. Autant cette attention au poème, elle me semble encore assez rare dans le domaine des sciences humaines.
Merci beaucoup, Marielle Massé.
Merci.